Vous êtes bien à l'écoute de RFI, les 23h à Paris, 22h en temps universel.
24h en France.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette demi-heure consacrée à l'actualité française.
Charlotte de Rouen.
Dans l'affaire de Bétarame, la congrégation religieuse admet sa responsabilité et indique qu'elle va indemniser les victimes de violences sexuelles entre les années 50 et les années 2000 des pensionnaires de cet établissement scolaire. Le Sénat, divisé sur l'accord migratoire avec l'Algérie, certains veulent une révision de ces accords. D'autres sont partisans d'une ligne dure, prêts à le dénoncer. Un débat sur fond de crise ouverte entre Paris et Alger. Une délégation du MEDEF se rend aux États-Unis avec un objectif, déminer le terrain et comprendre quels sont les secteurs économiques français qui pourraient être concernés si Donald Trump met à exécution ces menaces de taxes douanières. À suivre également la disparition de Jean-Louis Debré, figure de la 5e République. L'ancien président du Conseil constitutionnel est mort la nuit dernière à l'âge de 80 ans. Ce projet voulu par Emmanuel Macron et initié par le Camerounais Achille Bembe, la Maison des Mondes Africains va finalement s'installer dans le 10e arrondissement de Paris après des mois de controverses sur son implantation. Et puis dans la cuisine des Nguyen, un film qui raconte avec humour le racisme ordinaire en France. Dans l'affaire de Bétarame, la congrégation religieuse qui a longtemps dirigé cet établissement reconnaît pour la première fois sa responsabilité. Elle promet une indemnisation des victimes d'actes sexuels commis par le personnel laïc de l'établissement, notamment les surveillants. Les victimes d'actes perpétrés par des religieux ont, elles, déjà été indemnisées. On le rappelle, cet établissement catholique du sud-ouest du pays est au cœur d'un scandale d'abus physiques et sexuels. 150 plaintes ont été déposées par d'anciens élèves qui dénoncent des violences commises par des religieux et des surveillants sur une période qui s'étale des années 50 aux années 2000. Mais les autres violences physiques, elles, ne sont pas reconnues encore par la congrégation religieuse, ce que regrettent certaines victimes, Baptiste Coulon.
Aucune violence sexuelle, mais des violences physiques et psychologiques dès les premiers jours, se souvient Arnaud. Il entre à Notre-Dame de Bétarame en septembre 1996.
Moi, je suis tapé sans aucun motif. Des énormes baffes dans la tronche, des coups avec le poing fermé sur le crâne. J'ai jamais cédé. Ils m'avaient clairement dit qu'ils allaient me faire plier comme les autres.
La congrégation sort du silence. C'est un premier pas pour cet ancien élève, mais insuffisant, car les violences physiques sont pour le moment exclues de toute indemnisation.
Ça n'a pas existé pour eux. Je ne suis pas reconnu.
Mais hors de question de subir une double peine, explique ce quarantenaire.
Nous, on ne s'arrêtera pas là. Ils doivent reconnaître aussi ces violences physiques et réparer dans tous les moyens qui sont déjà à leur disposition.
Reconnaître ces violences de manière concrète, par exemple en subvenant aux frais de psychothérapie, ils sont pour le moment entièrement à la charge d'Arnaud.
Ça représente 1500 à 2000 euros par an. Moi, je gagne à peine le SMIC. Je pense que pour l'église, vu le patrimoine immobilier, ils pourraient faire un effort.
Pour les victimes, aucune violence ne doit être épargnée, elle constitue un ensemble indissociable dont les conséquences psychologiques sont toujours visibles, même un demi-siècle après les faits.
Baptiste Coulon. Et face aux violences faites aux enfants, la Ciivise exhorte l'exécutif à agir sans délai. Dans un rapport, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants demande au gouvernement de déployer des moyens. Au total, elle liste 15 mesures prioritaires, dont le lancement d'un audit sur les dispositifs d'alerte concernant les violences dans les institutions. Une question qui a ressurgi donc notamment avec les révélations sur Bétarame. Un procès pour meurtre requis pour le policier auteur du tir mortel contre Naël. La mort de l'adolescent de 17 ans avait choqué l'opinion publique et déclenché plusieurs nuits d'émeutes à travers la France. Naël a été tué d'une balle tirée à bout portant par un policier qui contrôlait le véhicule qu'il conduisait. Le parquet de Nanterre a demandé donc à ce qu'un procès pour meurtre se tienne, estimant que Naël ne présentait pas de danger immédiat pour les policiers. C'est désormais un juge d'instruction de se prononcer. La mère de la victime s'est dit soulagée. Le syndicat de police Alliance, de son côté, dénonce une décision inacceptable et appelle les policiers à se mobiliser demain, mercredi, devant les commissariats pour exprimer, je cite, leur colère. En pleine crise entre la France et l'Algérie, des divisions apparaissent sur la posture à adopter tant au sommet de l'exécutif qu'au Sénat. Dans la presse, le président Emmanuel Macron a recadré le chef du gouvernement François Bayrou et son ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Il refuse toute dénonciation unilatérale des accords de 1968, accord donnant un statut particulier aux Algériens en France en matière de circulation et de séjour notamment. Le chef de l'État appelle à un dialogue exigeant et respectueux quand Matignon menace de rompre tout simplement ses accords si l'Algérie refuse de reprendre ses ressortissants expulsables. Ce mardi, les relations franco-algériennes étaient débattues au Sénat. Raphaël Delvolvé, chacun se positionne entre le chef de l'État et le gouvernement.
Le président a plus les faveurs de la gauche, le communiste Fabien Gay le dit à sa manière.
Entre la peste et le choléra, je suis plus proche des propos d'Emmanuel Macron que de ceux de Bruno Retailleau. Nous avons le rapport à la colonisation. C'est un sujet pour beaucoup qui est encore extrêmement douloureux 60 ans après.
Incompréhension chez les sénateurs Les Républicains, Max Brisson conteste la position présidentielle. Entre l'attentat de Mulhouse et l'échec d'expulsion d'influenceurs algériens, l'heure est au bras de fer.
Nous sommes constamment dans la discussion et nous recevons coup de pied au derrière sur coup de pied au derrière. Donc il faut de la fermeté. Je rappelle au président de la République que dans la Constitution, il n'y a pas de domaine réservé.
Façon encore de contester ce qu'Emmanuel Macron rappelle ces derniers jours, seul lui peut décider de la politique étrangère. Le socialiste Patrick Kanner approuve et appelle à la retenue.
On veut un conflit généralisé, une rupture diplomatique, ça n'a aucun sens. Si les accords de 68 doivent être révisés, c'est à deux.
Premier responsable politique à avoir mis sur la table la fin des accords de 68, Édouard Philippe, aujourd'hui candidat déclaré pour 2027. L'un de ses proches, le sénateur Claude Malhuret.
Il faut que l'on rediscute de ces accords de 68 qui n'ont plus lieu d'être pour le faire de façon raisonnable, ou en tout cas essayer en ce qui nous concerne les Français.
Seul point d'accord de droite à gauche, demander la libération de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, toujours emprisonné en Algérie.
Raphaël Delvolvé, face aux menaces que fait planer Donald Trump sur les importations européennes et la hausse des droits de douane entrée en vigueur la nuit dernière sur les produits canadiens, mexicains et chinois qui entrent aux États-Unis, une délégation du MEDEF se rend aux États-Unis justement. Une petite semaine de rencontres et d'échanges de l'autre côté de l'Atlantique au programme. Nicolas Feldman, une mission déminage.
Premier objectif d'abord, prendre attache avec les nouveaux décisionnaires à Washington. Au-delà des déclarations de Donald Trump, le MEDEF veut comprendre quels sont les secteurs qui pourraient être taxés et dans quelles proportions. La délégation sera accompagnée de représentants de la cosmétique ou des entreprises de la mécanique, deux secteurs dans le viseur de l'administration américaine. À Washington puis à New York, lundi, l'organisation patronale veut surtout faire de la pédagogie. Non, la TVA ne relève pas du protectionnisme, c'est un impôt que doivent aussi payer les Européens. Mission déminage aussi et enfin pour rétablir des faits. Certes, les États-Unis ont un déficit commercial avec l'Europe, mais ils portent surtout sur les biens manufacturés quand la balance est, elle, positive pour tout ce qui concerne les services. Aux États-Unis, le message des patrons français est donc clair. Des deux côtés de l'Atlantique, une guerre commerciale ne ferait que des perdants et profiterait à la Chine qui n'attend que ça pour pénétrer encore un peu plus le marché européen.
Nicolas Feldman.
24 heures en France.
Jean-Louis Debré a consacré une vie à une certaine idée de la France. Réaction du président Emmanuel Macron à la disparition de cette ancienne figure de la vie politique, ancien président de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, proche de Jacques Chirac. Il est mort ce mardi à l'âge de 80 ans, fervent défenseur de l'idée républicaine. Il avait écrit le dictionnaire amoureux de la République dont il était venu parler en 2017 sur RFI.
La République, c'est ce qui nous rassemble, c'est le pacte qui fait que malgré nos différences, nos oppositions, on se croise dans la rue, on peut s'exprimer, on peut dire ce que l'on pense. Voilà, pour moi, la République, c'est une façon de vivre. La République, elle est toujours en construction parce qu'elle est confrontée à des réalités aujourd'hui. Et ces réalités changent. Et donc la République d'il y a un siècle et demi n'a pas les mêmes contours que la République d'aujourd'hui. Et la force de la République, c'est d'essayer de s'adapter.
Jean-Louis Debré. Après des mois de controverses, la Maison des Mondes Africains va s'installer finalement dans le 10e arrondissement de Paris. Ce centre pluridisciplinaire a pour ambition d'être le QG permanent des cultures africaines en France. Un projet voulu par Emmanuel Macron et initié par le penseur camerounais Achille Mbembe. Les diverses autorités en charge du dossier se disputaient depuis des mois sur le lieu d'implantation. Olivier Roger.
Si l'art peut être réaliste, les querelles parisiennes sont souvent surréalistes. Il a fallu des mois de débats et de controverses pour enfin décider du lieu d'implantation de la Mansa, la Maison des Mondes Africains. Ce sera finalement un ancien atelier du 10e arrondissement qui commencera à accueillir ses premiers visiteurs dès juin. Pendant un temps, le ministère de la Culture souhaitait voir la maison s'installer sur les berges de la Seine, à la Monnaie de Paris, mais le vénérable établissement, datant du 9e siècle, aurait dû partager un espace qu'il espérait rentabiliser pour boucler son budget, faute de fonds publics. Par ailleurs, la querelle avait pris un tour politique, les députés du Rassemblement National accusant le gouvernement de céder, je cite, aux sirènes de la repentance vis-à-vis de l'Afrique. Ajoutez à cela des difficultés budgétaires entre les deux ministères de tutelle, affaires étrangères et culture, et vous obtenez au final un projet qui a mis plus de 3 ans à s'implanter. Sur le modèle de l'Institut du Monde Arabe, la Mansa se veut à la fois une vitrine, un refuge et un tremplin pour les artistes contemporains africains.
Du cinéma à présent, avec la sortie du film Dans la cuisine des Nguyen, l'histoire d'Yvonne qui se rêve reine de Broadway mais qui ne décroche que de petits rôles de prostituée ou de serveuse du fait de son physique. Un long métrage qui met en scène avec humour la question du racisme dans la France d'aujourd'hui. Sophie Torlotin.
Bonjour, je viens pour l'audition. Yvonne Nguyen.
À 38 ans, Yvonne rêve de percer dans le milieu des comédies musicales, mais ses origines vietnamiennes la cantonnent à des rôles stéréotypés. Yvonne va devoir retourner vivre chez sa mère qui rêve qu'elle reprenne le restaurant familial.
Tu vas aider la famille vietnamienne, c'est comme ça, hein ?
Stéphane Lee Kuong met en scène et en musique le quotidien d'une artiste toujours renvoyée à ses origines.
On présume forcément que, comme on a un faciès asiatique, on parle une langue asiatique. On peut nous demander aux dépotés d'improviser dans notre langue. C'est dire, en fait, ton pays, c'est le Vietnam, c'est pas la France.
Je vois une geisha en sandales de bois à Hiroshima.
Le directeur artistique des cérémonies des JO, Thomas Joly, se révèle hilarant dans le rôle du metteur en scène sympathique mais très maladroit. Stéphane Lee Kuong traite avec humour et légèreté du racisme ordinaire.
Ça ne m'intéresse pas du tout de me poser en tant que victime. L'humour, la distance, la légèreté permettent de faire passer beaucoup plus de choses. Les personnes blanches dans le film disent parfois des choses un peu racistes, mais la maman vietnamienne aussi.
Dans la cuisine des Nguyen est une véritable capsule vitaminée qui combat tous les préjugés.
Sophie Torlotin du service culture de RFI.
24 heures en France. Charlotte de Rouen.
Et on poursuit avec notre invité culture du jour et focus sur la vie romanesque de Romy Schneider entre son rôle d'impératrice dans Sissi, un rôle qui l'a fait connaître dans le monde entier, sa rencontre avec Alain Delon, ses rôles inoubliables chez Claude Sautet. Stéphane Bettebédé revient en bande dessinée sur le parcours de cette légende du cinéma, une BD intimiste qui lève le voile sur une enfance et une adolescence autrichienne. Stéphane Bettebédé est au micro d'Elisabeth Le Guéret.
Stéphane Bettebédé, bonjour.
Bonjour Elisabeth.
Le sous-titre de votre bande dessinée dédiée à Romy Schneider, c'est « Je ne suis plus Sissi ». Donc ça déroule déjà le programme des réjouissances.
Le programme, c'est comment Romy est sortie de la chape de plomb que représentait Sissi dans sa carrière et comment elle est devenue l'actrice qu'on connaît.
Ça commence en 1945, donc Romy Schneider est encore une toute jeune fille par cette histoire en fait que, dit-elle, sa famille a toujours tue. C'est quoi cette histoire ?
C'est parti d'une interview que j'ai lue dans le Stern, journal allemand, où Romy racontait que sa famille avait une maison de campagne juste en dessous du nid d'aigle d'Hitler. Elle a plus ou moins fantasmé que sa mère a été amante d'Hitler. Je pense que c'est une petite hallucination qu'elle s'est faite, mais n'empêche qu'elle a toujours vécu avec cette lourde culpabilité d'avoir une mère et un beau-père qui étaient sympathisants nazis.
Alors sa vie professionnelle, elle est toute jeune, hein, mais sa vie professionnelle va commencer très vite. Et vous décrivez, alors avant quelques tout petits rôles, hein, bien sûr, vous décrivez la première du rôle qui lui va changer sa vie. Sissi, c'est une révolution pour elle.
Oui, c'est une révolution. Ça fait d'elle une star incroyable. Ça fait une manne financière pour sa mère et son beau-père, ce qui lui a permis non pas de s'émanciper, mais de se prouver qu'elle était capable de réussir autant, sinon plus que sa mère. Et je pense que c'était important pour elle.
Alors ces années 50-60 que vous racontez, Stéphane Bête-Bédé, elles sont marquées par trois dates cruciales. La première, c'est évidemment Sissi, hein, donc un grand rôle qui va la lancer, faire d'elle une superstar internationale. On est en 55. En 58, c'est un film, Christine, mais c'est aussi évidemment la rencontre avec Alain Delon. Et votre bande dessinée se termine en fait au moment de sa rencontre avec Claude Sauté, donc en 70, Les choses de la vie. Comment vous avez articulé ces trois pôles ?
En fait, cette émancipation se déroule par plusieurs phases. Et on parle de Christine, qui est le remake d'un film qui s'appelle Libelai, dans lequel jouait sa mère. Là, je pense que c'était vraiment un acte fort qu'elle a posé, où elle reprend le rôle que jouait sa mère dans ce remake. Sa mère ne comprend pas pourquoi elle le fait, mais elle le fait, je pense, pour s'imposer en disant « maintenant, c'est à moi de prendre ta place, en fait, quelque part ».
Et puis, Christine, c'est important, parce que c'est sa rencontre avec Alain Delon. Donc, ça va être une grande histoire d'amour, poursuivie par une grande histoire d'amitié. Et ça vous permet aussi de toucher à l'intimité d'un couple d'acteurs. Ils sont tous les deux très jeunes, très beaux. C'est des superstars mondiales.
Au moment où elle rencontre Alain Delon, c'était elle la grande star, la superstar qui avait fait Sissi. Et Alain Delon était un inconnu. Quand ils se sont mis ensemble, ça a complètement changé. Alain Delon est devenu une superstar très rapidement. Et Romy travaillait plus ou peu, en fait. Et c'est grâce à lui qu'elle réussira à trouver le rôle qui va la relancer dans le cinéma, qui est le film La Piscine.
Vous êtes beaucoup documenté, Stéphane Bête-Bédé. Comment vous la voyez, rétrospectivement, Romy Schneider ?
Je la vois comme une actrice qui s'est vraiment battue pour trouver sa place. Et c'est pas un hasard si elle est devenue une légende. C'est qu'elle a travaillé pour ça.
Stéphane Bête-Bédé, merci beaucoup.
Merci Elisabeth.
Romy Schneider, Je ne suis pas Sissi, donc voilà le titre de cette BD. C'est une nouvelle construction qui émerge peu à peu dans le sud de Paris, porte de Versailles, la Tour Triangle. En 2026, quand elle sera terminée, elle culminera à 180 mètres de hauteur, un peu moins que la Tour Montparnasse, mais elle changera le profil de la capitale. Reportage de Benoît Narbonne.
Au milieu des grues, des bruits de chantier et de nombreux passants, la tour atteint déjà plus de 60 mètres. En haut, les ouvriers travaillent sur le béton des étages à venir, et plus bas, les premiers niveaux sont déjà intégralement recouverts de grands panneaux vitrés qui reflètent le ciel. Yueng a 23 ans et vit juste en face de la tour. Il est perplexe, tout le quartier est déjà très animé.
Ça va faire vraiment différent de ce qu'il y avait par rapport à avant. Peut-être que ça va, j'allais dire, redynaminiser, mais il n'y a pas besoin, je pense. Il y a déjà assez de mouvements, il y a tout le temps des trucs au parc de l'Expo.
Livrée, la tour fera 180 mètres. Il s'agira de la troisième plus grande de Paris. Le dernier bâtiment comparable construit dans la capitale est la tour Montparnasse. C'était il y a plus de 50 ans. Pour les urbanistes, construire en hauteur reste une solution d'avenir. Pietro Cremonini est architecte à Paris.
Dans toutes les villes d'Europe, il y a un léger regain des tours, mais tout le temps avec l'idée d'utiliser des terrains qu'on ne pourrait pas construire autrement. Une préoccupation écologique fait qu'effectivement, on émet l'hypothèse qu'on ne peut plus étaler la ville, qu'il faut trouver les moyens de la densifier, mais aussi de la densifier là où les infrastructures sont déjà là.
Pourtant, les tours ne font pas l'unanimité auprès des habitués du quartier. Sophie passe tous les jours par la porte de Versailles à vélo.
Ce qui est choquant, c'est ce gros machin. Ce qui me gêne le plus, c'est la taille plutôt que l'architecture. Ça aurait été encore un truc de logement, mais il y a déjà trop de bureaux, etc. Donc je ne suis pas sûre de comprendre.
La tour Triangle sera en grande partie composée de bureaux, mais elle comportera aussi magasins et hôtels. Il reste encore un an et demi de travaux. Le projet a commencé après 10 ans de bataille juridique. Cependant, ce n'est pas forcément la tour que les riverains n'apprécient pas, mais son intégration dans le tissu urbain. C'est du moins ce que pense Pietro Cremonini.
Une tour qui s'implante à rez-de-chaussée sur un trottoir et sur lequel on peut accéder en tramway, en métro, c'est-à-dire une tour qui n'entraîne pas forcément des gigantesques parkings à ses pieds, c'est en fait que l'architecture moderne, puissante, haute, n'est pas incompatible avec une forme d'urbanité douce.
Si la tour Triangle ne convainc pas les Parisiens, les travaux avancent désormais de façon visible. Pour la mairie de Paris, le bâtiment est une promesse de dynamisme économique et d'offres touristiques comparables à celles des grandes villes comme New York. Les visiteurs pourront profiter d'une vue panoramique à son sommet tout en sirotant leur café au bar.
Reportage signé Benoît Narbonne. À Paris, il est 23h19, 9h19 à Nouméa.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec nos confrères de la première, on a beaucoup parlé gros sous ce mardi en Nouvelle-Calédonie. Bonsoir Benoît Ferrand.
Bonsoir. Les élus du congrès local se sont en effet penchés toute la journée sur les orientations budgétaires, tout comme d'ailleurs ceux du conseil municipal de Nouméa. Dans les deux cas, le budget devra être adopté avant le 31 mars prochain et il sera bien difficile à boucler, même si le ministre des Outre-mer s'est voulu rassurant en ce qui concerne les municipalités du territoire. Alix Madec.
6,3 milliards de francs CFP, c'est le coût des dégâts des exactions du 13 mai 2024 pour la ville de Nouméa. La commune a perdu au moins 37 bâtiments municipaux dont des écoles, des médiathèques, des véhicules, du mobilier urbain et une partie du réseau de vidéosurveillance. Si en décembre dernier la mairie annonçait être indemnisée par son assurance à hauteur de 5 milliards de francs, le budget 2025 devrait être compliqué à arrêter et pour cause la ville envisageait déjà la mise sous tutelle de l'État en fin d'année dernière, avec un budget en 2024 de 27,55 milliards, raccourci de 3,85 milliards en novembre. Seule annonce rassurante pour les 33 maires du territoire, elle a été faite la semaine dernière, à l'issue d'une rencontre avec le ministre des Outre-mer, Manuel Valls. Il a garanti un budget entre 95 et 105 milliards de francs CFP pour les communes et provinces cette année. Il s'élevait à 80 milliards l'année dernière. Un premier engagement rassurant qui devrait être évoqué ce soir à l'occasion du débat d'orientation budgétaire de la ville de Nouméa.
Direction la mer des Caraïbes, dans une lettre adressée au Premier ministre François Bayrou, Serge Letchimy tire la sonnette d'alarme et aussi un peu les oreilles aux membres du gouvernement. Selon le patron de la collectivité territoriale de la Martinique, la CTM, l'État ferait preuve d'une certaine désinvolture vis-à-vis des Outre-mer, en ce qui concerne en tout cas la lutte contre le narcotrafic. Olivier Lancien, la première Guadeloupe.
Serge Letchimy n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il accuse l'État de ne pas faire grand-chose pour tenter de juguler l'implantation de plus en plus croissante des organisations criminelles dans les quartiers de Martinique, Guadeloupe et Guyane. Le président du conseil exécutif de Martinique s'appuie sur des chiffres. 60% des 54 tonnes de cocaïne saisies dans toute la France l'an dernier l'ont été sur le territoire de la Martinique. Ces organisations criminelles sont orchestrées par des réseaux puissants qui inondent nos régions de drogue, mais aussi d'armes. Des chiffres issus de la commission d'enquête sénatoriale sur le phénomène. Serge Letchimy alerte sur le péril imminent. Il réclame d'urgence une réunion interministérielle sur les trafics de stupéfiants et d'armes aux Antilles et à la Guyane. Une demande accompagnée de mesures fortes pour nos territoires. Un renforcement des effectifs de forces de l'ordre, mais aussi de la justice et de l'administration pénitentiaire, des radars côtiers, des scanners pour les contrôles de passagers à l'aéroport et une coopération internationale dans la lutte contre ces trafics.
État suite. Quand un État n'a plus d'argent, le plus simple et le plus rapide est d'aller le chercher dans la poche des contribuables ou des consommateurs, les deux catégories recouvrant d'ailleurs peu ou prou les mêmes personnes. C'est ainsi que la taxe dite de solidarité sur le prix des billets d'avion a joyeusement augmenté depuis le 1er mars. Rien n'indiquant, pour l'instant, un passage entre les gouttes pour les voyageurs ultramarins. Sébastien Gilles, la première Guadeloupe.
La question de la répercussion de cette hausse par les compagnies aériennes qui la collectent et la reversent ensuite à Bercy est bien entendu centrale et l'optimisme du gouvernement de voir les compagnies ne pas la répercuter sur leur prix de revente a été rapidement douché par le directeur de l'AFNAM, la Fédération Nationale de l'Aviation et de ses métiers, qui explique que les compagnies n'ont pas d'autre choix que de l'appliquer au risque de voir leur modèle économique ébranlé. Enfin, quand le gouvernement assurait vouloir limiter l'impact de cette surtaxation pour les ultramarins, Force est de constater, là encore, que dans le texte, rien n'indique un tarif particulier ou d'exonération pour nous. Seule une hausse de 14 millions d'euros des crédits de l'ADOM viennent dans une certaine mesure compenser cette augmentation pour les étudiants, les personnes en formation ou encore les quelques personnes éligibles à la continuité territoriale telle qu'elle est actuellement pensée par le législateur. Le député Olivier Servin a tout de même obtenu l'ouverture d'une négociation avec l'Union européenne pour un taux réduit en Outre-mer. La Direction générale de l'aviation prépare le texte qui pourrait être débattu par la Commission européenne d'ici 2 à 3 mois, sans précision réelle sur le calendrier. La dernière tentative du genre en 2019 avait échoué.
Fin de cette édition. Bonne soirée.
Merci Benoît Ferrand et bonne soirée à vous également.
Le Conseil Santé avec Sounou Assurance.
Alors que le ramadan a commencé, comment éviter l'hypoglycémie? Caroline Paré en parle avec son invité.
Docteur Samia Farad Bensenoussi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes endocrinologue, diabétologue à Tours. Comment éviter une hypoglycémie si l'on jeûne, que l'on ne mange pas pendant la journée?
Eh bien, écoutez, il est très important de pouvoir faire un repas avant le lever du soleil qui va nous permettre déjà de s'hydrater et d'apporter des sucres lents, donc des féculents, des céréales, des protéines également, hein, pour essayer de maintenir un niveau de glycémie correct jusqu'à la fin de la journée. Ne pas trop se dépenser physiquement pour ne pas aussi gâcher et dilapider ou gaspiller son énergie.
Des conseils pour les personnes qui observent le ramadan sur le plan de l'hydratation. Est-ce qu'il y a aussi des conseils précisément pour mieux supporter une privation assez longue?
Eh bien, c'est tout simple, c'est boire toute la soirée autant que possible. Autant que possible, rompre le jeûne avec de l'eau, boire entre les repas, boire dans la soirée, boire au dernier repas avant de débuter le jeûne. Et il n'y a pas d'autre. Peut-être prendre des aliments aussi qui vont apporter de l'eau, donc des soupes, des bouillons. Les légumes apportent beaucoup d'eau, un peu de fruits, pas trop parce que c'est sucré, et toujours à la fin d'un repas pour éviter le pic glycémique. Donc les fruits, les légumes apportent vitamines et hydratation, les soupes apportent de l'eau, on peut boire des tisanes, surtout éviter les boissons sucrées qui vont juste entraîner des pics de glycémie et donc aggraver une éventuelle déshydratation.
Voilà pour ces conseils principaux. Merci beaucoup, docteur Samia Farad Bensenoussi. Tout à l'heure, dans Priorité Santé, nous allons parler de la lutte contre l'infertilité, en particulier des questions qui se posent face au progrès dans le domaine de la médecine de la reproduction. Questions éthiques, quelles limites poser? On se retrouvera dès 9h10, temps universel.
Et restez avec nous en attendant dans quelques instants place à Afrique Soir. Mais d'abord, on fait un point sur la bourse à New York.
Le rendez-vous de Wall Street.
Avec Pierre-Yves Dugas.
L'indice Dow Jones chute de 670 points et revient à 42 521. L'indice du Nasdaq limite les dégâts mais rend encore 65 points, clôturant à 18 285 après une forte baisse en début de séance, reflétant la peur d'une récession mondiale déclenchée par une escalade de droits de douane, et ce, en réaction aux surtaxes imposées par Washington au Canada, au Mexique et à la Chine. Les marchés d'actions se sont un moment redressés avant de replonger en fin de séance. La signature à nouveau imminente d'un accord entre les États-Unis et l'Ukraine, favorisant les États-Unis dans l'exploitation de minerais rares dans le sous-sol ukrainien, a un peu calmé les esprits. L'accord contribuerait à l'implication des États-Unis dans la protection de l'Ukraine. La presse américaine fait grand cas de signes de ralentissement de la croissance, des risques d'accélération, d'inflation également du fait des hausses de droits de douane. On surveillera de près demain les chiffres des commandes à l'industrie du mois de janvier aux États-Unis et l'estimation par le cabinet ADP des créations nettes d'emplois aux États-Unis dans le secteur privé. On table sur un ralentissement par rapport aux 180 000 postes qui avaient été recensés par ADP en janvier. La détérioration de la conjoncture américaine continue de plomber le dollar. L'or et surtout l'euro en profitent. La devise européenne confirme son net redressement, remontant à 1,0611 $. Le baril de pétrole américain est pratiquement inchangé à un peu plus de 68 dollars. L'indice Dow Jones chute finalement de 1,6%. L'indice du Nasdaq recule de 0,4%.
Merci Pierre-Yves Dugas. Restez avec nous sur RFI et retrouvez toute l'actualité aussi sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook et aussi sur RFI.fr. Merci à Arthur Geffroy qui m'a accompagné ce soir à la réalisation. Rédaction en chef Loïc Bussière. Restez avec nous dans quelques instants. C'est Afrique Soir, le retour de l'actualité africaine. Une demi-heure pour tout connaître de l'essentiel de l'actualité du continent.